Un accord est possible d'ici la fin du mois. Manuel Valls revient le 29 avril en Calédonie. Les choses avancent, estiment les délégations politiques après 4 jours de discussion. Le Conseil d'État juge le blocage de TikTok illégal pendant les émeutes de mai en Calédonie. Une décision sans conséquences concrètes. Visite de terrain pour les étudiants en 3e année de licence SVT à l'UNC. Ils ont été visités ce matin le sentier de la mangrove à Wemo. En métropole, du nouveau pour Marine Le Pen. Son procès en appel devrait se tenir en 2026 et la décision rendue à 9 mois de la prochaine présidentielle. Et puis du football, dans la page sport, le PSG s'est qualifié pour la finale de la Coupe de France ce matin. Dans la région, 2e journée de Ligue des champions d'Océanie, Tigasport affronte cet après-midi les Néo-Zélandais d'Auckland FC. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Nous avons franchi une étape décisive, c'est ce qu'affirme Manuel Valls à l'issue de 4 jours de négociations. Le ministre des Outre-mer est reparti hier soir, mais il reviendra avant la fin du mois pour, espère-t-il, aboutir à un accord global. Emmanuel Valls croit qu'un accord est possible, Elisabeth Noir.
Un ministre qui se montre très volontariste, voire très optimiste. Hier soir, face à la presse, lors d'une rencontre informelle en compagnie d'héritières, le conseiller du Premier ministre, il a fait le point sur ces 4 jours de négociation. Et il déclare qu'un pas décisif a été franchi lors des échanges qui ont eu lieu ces derniers jours, avant d'annoncer son retour en Nouvelle-Calédonie pour une 3e séquence qui aura lieu à partir du 29 avril. C'est ce que précise une déclaration commune des parties engagées dans les discussions. Déclaration commune qui a été publiée hier soir. L'objectif de cette 3e séquence, ce sera de parvenir à un accord global sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie et les négociations s'appuieront sur le projet d'accord proposé par le gouvernement le 30 mars, précise cette déclaration. Il s'agit du projet d'accord politique qui a été remis dimanche au groupe politique, mais dont la teneur n'a pas été rendue publique. D'ici le retour de Manuel Valls et d'Éric Thiers, le travail va continuer directement entre partenaires calédoniens et en visioconférence avec le ministère. Chaque groupe politique pourra aussi rencontrer sa base et on sait que c'est une demande notamment de la délégation UCF-LNKS qui veut des sas de discussion au terme de chaque séquence avec l'État. Un pas décisif a été franchi, un accord est possible. C'est donc sur ces affirmations que le ministre des Outre-mer a quitté hier soir la Nouvelle-Calédonie en saluant l'esprit de responsabilité des partenaires calédoniens, même si, bien sûr, il faut rester très prudent. Il est trop tôt à l'heure actuelle pour évoquer un calendrier, mais si un accord était trouvé début mai, il devrait encore passer devant le Parlement, puis être soumis aux Calédoniens qui auront le dernier mot. Il faut avancer et conclure, déclare encore le ministre des Outre-mer, qui affirme qu'il ne veut pas mettre la pression, mais personne, dit-il, n'envisage l'échec. Un échec serait terrible pour la Nouvelle-Calédonie.
Manuel Valls se félicite aussi de l'adoption du budget par le Congrès et de la signature du prêt garanti par l'État. Il affirme que le contexte de la filière nickel commence à s'éclaircir, mais il relève des points d'inquiétude avec l'aggravation de la situation économique, sociale, voire sanitaire de la Nouvelle-Calédonie. Au terme de ces 4 jours consacrés presque exclusivement aux négociations sur l'avenir institutionnel, Manuel Valls a donc quitté hier soir la Nouvelle-Calédonie. Il reviendra le 29 avril après 2 séjours dans l'océan Indien puisqu'il doit se rendre à Mayotte et à La Réunion et accompagner le président de la République, notamment à Madagascar et à Maurice. Dans notre édition de 6h30 ce matin, vous avez pu entendre les réactions des différents groupes politiques à l'issue de ces 4 jours de négociations. Et nous sommes revenus sur cette séquence en compagnie de Sonia Backès, qui était notre invitée du matin.
Et nous avons d'abord demandé à la chef de file de la délégation loyaliste si elle partageait l'optimisme du ministre et si elle pensait, elle aussi, qu'un accord est possible. Elle estime que oui, si tout le monde est de bonne foi et de bonne volonté. Pour Sonia Backès, les choses avancent à petits pas, mais c'est long, dit-elle. Alors, on ne connaît pas le fond des discussions qui, depuis dimanche, ont eu lieu autour du projet d'accord politique remis par Manuel Valls, au responsable calédonien. C'est volontairement, reconnaît Sonia Backès, que ces négociations sont entourées de la plus grande discrétion.
C'est un choix parce que c'est vrai que dès l'instant où le contenu des négociations sort, ça fait évidemment polémique, ça fait débat et ça empêche finalement les choses d'avancer dans le bon sens. Ça a toujours été comme ça dans toutes les négociations qui réussissent. Il y a une certaine discrétion qui est imposée. C'est pas pour ça que les Calédoniens ne seront pas informés puisqu'évidemment rien ne se fera sans eux puisque de toute façon, si un accord est trouvé, ce sont les Calédoniens qui auront à l'adopter ou pas. Donc il faut juste être un petit peu patient pour laisser les négociations se faire dans la sérénité. Ce qui est important, c'est qu'on puisse continuer à négocier, à discuter sereinement, que chacun puisse défendre ses positions sans avoir la pression extérieure.
Le chef de file de la délégation loyaliste salue la méthode choisie par le ministre des Outre-mer qui privilégie le pragmatisme et la souplesse en alternant les plénières et les bilatérales. Et sans dévoiler le contenu du projet d'accord, elle a évoqué les thèmes des discussions.
Les thématiques sont connues, hein, et ce sont celles qui étaient dans le document qui ne nous convenaient pas, hein, le document initial qui a été produit par le ministre sans qu'on l'ait accepté, hein, donc ce document ne nous convenait pas. Mais les thématiques, elles sont là, c'est-à-dire c'est toujours les mêmes thématiques. Hein. C'est le droit à l'autodétermination, c'est le corps électoral, c'est la gouvernance interne. Hein. Pour nous, c'est plus de compétences aux provinces, c'est toujours les mêmes thématiques.
Projet la question, de société.
Projet de société, le développement économique, c'est un point qui est important pour nous aussi, parce que les Calédoniens sont quand même en souffrance dans le quotidien, et donc l'idée que s'il y a un accord, l'État puisse l'accompagner d'un point de vue du développement économique, c'est un point important.
Il reste des points durs, souligne Sonia Baquet, et pour les partisans du maintien dans la France, la ligne rouge, c'est bien sûr le respect des trois référendums. Les indépendantistes, à l'inverse, réclament toujours une trajectoire inéluctable vers l'indépendance. Mais malgré ces divergences, les discussions se déroulent dans une ambiance constructive.
Il y a des moments tendus, on a une histoire longue mais récente qui est quand même très lourde. Et on est quand même un certain nombre à ne pas pardonner et à ne pas faire confiance. Et donc ces discussions, elles se passent dans ce contexte-là. Donc forcément, c'est tendu, forcément il y a des moments où on voit bien que la plaisanterie n'est pas de mise. Mais malgré tout, il y a des vrais moments constructifs, c'est-à-dire qu'on essaye quand même les uns et les autres de s'écouter, de s'entendre pour essayer de trouver une voie acceptable parce que c'est évidemment l'intérêt de tous les Calédoniens de trouver un accord.
Manuel Valls reviendra donc le 29 avril. Les partisans de la France auraient aimé qu'il revienne plus tôt. Mais cette période va être utile, elle va être consacrée à la poursuite des discussions.
D'ici là, nous allons continuer à discuter en plénière, c'est-à-dire dans le format dans lequel on était, avec un système de visio avec Paris, sans doute avec Éric Thiers et l'équipe de Manuel Valls. Donc on va essayer de continuer à avancer pendant cette période-là, parce que l'idée du ministre, et je ne sais pas s'il y arrivera, il est évidemment à la fois très positif et très optimiste et très volontariste, mais je ne sais pas si son objectif sera atteint, mais en tout cas le sien, c'est d'arriver à trouver un accord et à signer cet accord la prochaine fois qu'il vient. Donc pour ça, il faut évidemment avancer pendant l'intervalle où il n'est pas là pour essayer de se donner toutes les possibilités, toutes les chances que ça aboutisse à la fin du mois.
C'est une question de volonté de la part de ceux qui sont autour de la table, insiste Sonia Baquet. Ont-ils ou non la volonté de faire des concessions et quel est le mandat dont ils disposent ? Pour leur part, les partisans de la France veulent que l'accord soit basé sur la reconnaissance que tous les Calédoniens sont égaux en droit. Ils vont tenir des réunions publiques dans les prochains jours et les prochaines semaines pour informer les Calédoniens. Et puis dans un autre domaine, Sonia Baquet confirme aussi les propos du ministre des Outre-mer qui parlait hier soir d'une éclaircie dans le secteur du nickel.
J'ai reçu le groupe qui a obtenu l'exclusivité sur le rachat de Prony Ressources. Je crois que l'État avance avec eux dans le bon sens également sur les conditions de ce rachat. Donc je suis plutôt optimiste sur la manière dont les choses se présentent pour Prony Ressources. La SLN, je comprends que Alcide Ponga fait un gros travail sur la réouverture des mines, que les mines de Nakheti sont en bonne voie de réouvrir. On travaille également sur Thio pour que ça réouvre. Ça sera plus long que sur Nakheti sans doute, mais en tout cas on y travaille. Donc la SLN peut reprendre des couleurs également, donc c'est plutôt encourageant en effet.
Une interview de Sonia Baquet disponible en audio et en vidéo sur notre site internet.
Il est 11h39, la première pause de ce journal avant de voir le reste de l'actualité en Calédonie.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Ah, ces assurances, j'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple, fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixon à Magenta à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixon, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
Aménagez votre jardin avec Jardiland Nouméa. Du 24 mars au 20 avril, la canisse plastique blanc simple face 1,50 m par 3 m est à 1490 francs seulement. Alors n'attendez plus pour embellir votre jardin. Avec Jardiland Nouvelle-Calédonie, vos économies commencent ici.
Jardiland. Cultivez votre bien-être.
RRB, 11h, 13h, Infomag, Jean-François Baudin.
La suite de l'actualité en Calédonie avec cette opération anti-stup hier à l'aérodrome de Magenta, avec notamment la présence d'un chien spécialisé dans la détection de produits stupéfiants. Les policiers nationaux ont procédé au contrôle d'identité, aux fouilles des personnes présentes, mais aussi des bagages à l'arrivée et au départ des avions. Une fouille du fret, des cartons et des glacières présents sur les chariots a également été effectuée. Il n'y a pas eu de saisie de stupéfiants. Le Conseil d'État juge illégal le blocage du réseau social TikTok lors des émeutes insurrectionnelles débutées en mai 2024. Le Conseil d'État avait été saisi par deux associations, dont la Ligue des droits de l'homme nationale, et par des particuliers qui reprochaient au Premier ministre de l'époque, Gabriel Attal, d'avoir fait interrompre l'accès au réseau social TikTok. Lionel Sabot.
Dans un communiqué de presse diffusé la nuit dernière, le Conseil d'État rappelle qu'en vertu d'une jurisprudence vieille de plus d'un siècle, établie à l'occasion de la Première Guerre mondiale, la survenue de circonstances exceptionnelles permet bien à l'autorité administrative de prendre en urgence les mesures indispensables pour faire face à la situation du moment. Le Conseil d'État juge par ailleurs que la situation en Nouvelle-Calédonie, marquée notamment par des émeutes d'une très grande violence ayant entraîné plusieurs décès et de façon générale des atteintes aux personnes et aux biens d'une particulière gravité, c'est bien le moins qu'on puisse dire, constituait bien des circonstances exceptionnelles. La plus haute juridiction administrative écrit également qu'au moment des faits, le Premier ministre, constatant le rôle joué par l'utilisation du réseau social dans la propagation rapide des troubles, était en droit, en l'absence d'autres moyens techniques immédiatement disponibles, d'édicter une mesure d'interruption provisoire d'accès à TikTok. En revanche, dit encore le Conseil d'État, une telle mesure ne pouvait être légalement prise qu'à la condition que sa durée soit fixée dès le départ. Or, souligne le Conseil d'État, en mai 2024, le Premier ministre a décidé d'une interruption totale du service pour une durée indéterminée. C'est pourquoi la haute juridiction juge que le blocage de TikTok en mai 2024 était illégal, car il a, et je cite, « porté une atteinte disproportionnée » aux droits et libertés invoqués par les requérants. Fin de citation.
Une information pratique, les sirènes d'alerte tsunami vont se mettre en route à midi. Attention, il ne s'agit pas d'une véritable alerte, mais d'une vérification du bon fonctionnement des sirènes. Il en existe 73 sur tout le territoire et ce test est réalisé chaque mois. Et puis des étudiants dans la mangrove. L'Université de la Nouvelle-Calédonie organisait en effet aujourd'hui une visite de terrain pour un groupe d'étudiants, Michael Juneski.
Ils sont en troisième année de licence sciences de la vie et de la terre et leur salle de classe, ce matin, c'était le sentier découverte de la mangrove de Nouméa, au départ de la maison de la biodiversité à Sainte-Marie. Une expérience qui a fortement plu à ces jeunes dont la vocation est de se spécialiser dans ces disciplines.
Je trouve que c'est super de pouvoir appliquer la théorie qu'on a eue du coup en cours magistral sur le terrain. Ça permet de mieux retenir les informations et surtout d'avoir une vision de ce qu'on peut faire potentiellement plus tard sur le terrain et pas simplement du coup du théorique.
Ouais, c'est une super initiative de mettre les futurs scientifiques sur le terrain. Ça ne peut qu'être bénéfique pour notre réussite, je pense.
On a fait 3 ans que dans des salles et quand on veut être scientifique sur le terrain, après c'est vrai que ça manque cruellement de sorties. Donc là, c'est un beau projet. Les enseignements de terrain, c'est au moins aussi important que les cours théoriques en salle.
Alors moi, je trouve ça aussi très bien. Ça me permet de voir la vraie vie d'un métier de scientifique. On est sur le terrain, quoi. On bouge, on voit les vraies choses, c'est pas que de la théorie.
Et bien plus qu'une balade à l'extérieur, l'objectif est de permettre à ces étudiants de mettre en pratique les enseignements théoriques sur un campus grandeur nature, entre guillemets. Un apprentissage également pour pouvoir mieux faire connaître, mais aussi apprendre à préserver et valoriser les richesses de l'environnement calédonien. Cyril Marchand est professeur à l'Université de la Nouvelle-Calédonie.
L'an passé, l'université a été lauréate d'un projet qui s'appelle Diversité. Nous avons obtenu près de 2 milliards pour modifier nos façons de faire de l'enseignement, pour modifier nos activités de recherche, notamment avec ce qu'on appelle de la projection terrain, c'est-à-dire sortir nos étudiants, les emmener sur le terrain pour qu'ils découvrent les écosystèmes, pour qu'ils découvrent les cultures et les langues calédoniennes et qu'ils pratiquent eux-mêmes les instruments. Pédagogiquement, c'est beaucoup plus performant, on va dire, et les étudiants sont beaucoup plus intéressés que dans une salle de classe. Mais pouvoir le faire, il faut des moyens, des instruments, il faut être en capacité de les sortir, donc du transport, si c'est en dehors de Nouméa, de l'hébergement. Et grâce à ce nouveau projet Diversité, nous sommes en capacité de le faire. Alors là, nous sommes dans la mangrove, un écosystème d'intérêt patrimonial pour la Nouvelle-Calédonie. La mangrove est un piège pour le CO2, pour les gaz à effet de serre. Les stocks de carbone sont importants dans la biomasse, dans le tronc, dans les feuilles, mais aussi dans les sols de mangrove. On considère qu'un sol de mangrove va contenir 10 à 100 fois plus de carbone qu'une forêt classique, parce que justement, le sol est gorgé d'eau. Mais malgré le fait que le sol soit gorgé d'eau, il y a quand même de la décomposition et les sols émettent quand même un peu de CO2. Et les étudiants sont en train de travailler avec des analyseurs infrarouges pour mesurer les émissions de CO2, donc il y a un gaz à effet de serre, depuis la colonne d'eau ou depuis le sol de la mangrove.
Et l'Université de la Nouvelle-Calédonie souhaite multiplier les visites de terrain de ce type pour les étudiants concernés, mais aussi dans d'autres disciplines, grâce donc au déploiement du projet Diversité en partenariat avec l'IRD et le CNRS.
Il est midi moins le quart. Dans un instant, l'actualité en métropole, dominée évidemment toujours par les suites de la condamnation de Marine Le Pen dans l'affaire des assistants parlementaires européens du Front National.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Envie d'un pick-up confortable et robuste?
Bah, Isuzu D-Max!
Un 4x4 équipé au top pour toute la famille?
Isuzu D-Max! Le Isuzu D-Max double cabine 150 chevaux 5 places est pour vous à seulement 3 690 000 francs. Venez l'essayer et découvrez aussi la série limitée Aito.
Isuzu au village automobile PK4 Nouméa.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas à pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
RRB, pour être les premiers et les mieux informés.
L'actualité en métropole, c'est la suite d'Infomag. On retrouve Jean-François Baudin.
La condamnation de Marine Le Pen dans l'affaire des assistants parlementaires européens du Front National continue évidemment d'alimenter de nombreux débats, et notamment la peine d'inéligibilité assortie d'une exécution provisoire prononcée à l'encontre de la chef des files des députés RN. Cette décision pourrait l'empêcher de se présenter à la prochaine élection présidentielle. Marine Le Pen a fait appel de cette décision et la Cour d'appel a annoncé qu'elle rendrait une décision à l'été 2026, c'est-à-dire 9 mois avant le scrutin présidentiel. Le sort de Marine Le Pen a aussi provoqué évidemment de vifs débats à l'Assemblée nationale la nuit dernière pour nous. Maïlène Trémollet pour Europe 1.
Face à un exécutif embarrassé qui joue l'apaisement, les questions s'enchaînent. Dans les rangs du RN au grand complet, les porte-paroles s'insurgent un à un. Jean-Philippe Tanguy, député de la Somme.
Il y a des tyrannies qui enferment leurs opposants. Il y a désormais des justes tyrans qui exécutent l'état de droit en place publique.
Au milieu des invectives, Gérald Darmanin se lève et affirme vouloir que l'appel de l'élu d'Hénin Beaumont se fasse dans un délai équilibré.
Je souhaite que, si Madame Le Pen interjette recours, ce délai de jugement nouveau puisse être organisé dans un délai le plus raisonnable possible.
Sur les bancs de la gauche, on s'indigne, on réclame du gouvernement un soutien aux magistrats menacés, responsables de ce jugement. Boris Vallaud, président du groupe socialiste au Palais Bourbon.
Monsieur le Premier ministre, nous vous demandons d'exprimer votre soutien inconditionnel. Merci à la justice de notre pays.
S'il défend l'indépendance des magistrats, François Bayrou ne ferme pas la porte à une réflexion pour faire évoluer la loi sur l'exécution provisoire et appelle au calme sans succès. La séance s'achève comme elle avait commencé dans la cohue générale.
Et de son côté, le Rassemblement national organise la riposte et le soutien à Marine Le Pen. Une pétition en ligne a recueilli 300 000 signatures en 24 heures. Dans le même laps de temps, le Rassemblement national a enregistré 10 000 nouvelles adhésions. Et dimanche, un meeting de soutien à la chef de file des députés RN est organisé dans les rues de Paris.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu et voici notre question du jour. La condamnation de Marine Le Pen à 5 ans d'inéligibilité avec exécution immédiate vous paraît-elle justifiée? Si vous la trouvez justifiée, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. La réponse à notre question d'hier, 20% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS comprennent, après la publication de son communiqué, les raisons qui ont conduit Yoann Le Courrieux à s'abstenir lors du vote du budget propre de la Nouvelle-Calédonie. Ils sont 80% à ne pas comprendre ces raisons. Revenons à l'actualité en métropole, où le débat sur le port du voile dans le sport n'est pas terminé. Les positions des membres du gouvernement sont partagées, mais François Bayrou avait soutenu ses ministres de l'Intérieur et de la Justice, partisans d'interdire le port du voile dans les compétitions sportives. Mais lors d'un petit déjeuner du socle commun, la position du Premier ministre est apparue beaucoup plus floue. Alexandre Chauveau pour Europe 1.
Officiellement, Matignon évoque un embouteillage de textes jusqu'au mois de juin. François Bayrou renonce en réalité à inscrire à l'ordre du jour de l'Assemblée la proposition de loi pour des raisons politiques. C'est en tout cas la conviction de plusieurs participants qui s'appuient pour cela sur les déclarations du Premier ministre ce mardi matin devant les chefs de parti du socle commun. Est-ce le moment de faire ce genre de débat qui clive ? S'interroge François Bayrou. Il ne faut pas stigmatiser nos 9 millions de compatriotes musulmans, ajoute-t-il. De quoi créer l'émoi au sein du gouvernement. Bruno Retailleau Retailleau et Aurore Berger en tête, lesquels avaient défendu l'esprit du texte au moment des débats au Sénat, s'opposant par ailleurs à Elisabeth Borne et Marie Barsac. La polémique s'invite enfin dans la campagne pour la présidence des Républicains, Laurent Wauquiez reprochant au gouvernement de ne présenter aucun texte lié à l'identité ou l'immigration, gouvernement auquel appartient son concurrent Bruno Retailleau.
Autre réunion, cette fois-ci autour du président de la République avec le ministre des Affaires étrangères et de nouveau ceux de l'Intérieur et de la Justice. Il s'agissait d'évoquer la reprise des relations entre la France et l'Algérie après le coup de fil d'hier entre le président français et son homologue algérien. Bruno Retailleau avait adopté une ligne dure, mais Emmanuel Macron a acté une reprise des relations. Qu'est-ce que cela veut dire, William Molinier ?
Comme toujours, après une période de tensions diplomatiques, on teste l'état de la relation par la coopération sécuritaire, parce que ces liens sont censés être toujours actifs, même de façon informelle. Les échanges entre services de police sont un bon thermomètre pour voir où en sont les deux pays. Paris et Alger ont acté la reprise des contacts entre les préfectures françaises et les consulats algériens. En clair, la place Beauvau va pouvoir à nouveau tenter d'expulser des Algériens considérés comme dangereux et visés par des OQTF. Aucune garantie de succès, mais l'Algérie convient, ce qui est une avancée, de regarder leur dossier et s'engage, si ses ressortissants entrent dans les critères, à accepter leur réadmission. Ce week-end, le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot se rend en Algérie. Au cœur des discussions, le retour possible de l'ambassadeur algérien à Paris, il avait été rappelé l'été dernier. Ce déplacement doit préfigurer une éventuelle rencontre entre Emmanuel Macron et Abdelmadjid Tebboune. Rien n'est encore fixé, rien n'est exclu, avance prudemment une source diplomatique.
À 11h et bientôt 52 minutes, la dernière pause de ce journal avant de voir l'actualité sportive. C'est une double actu foot dans un instant.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Simplifiez-vous la vie avec le paiement en ligne. Pas besoin de créer de compte, rapide et pratique. Allez sur www.cde.nc, cliquez sur espace client et choisissez le paiement express pour régler votre facture d'eau. Calédonienne des eaux, l'eau qui nous unit.
Papa, maman, c'est le moment de vous faire plaisir avec le grand jeu Huggies. À gagner un siège auto, une poussette, un parc pour bébé et un baby cook. 4 gagnants, 4 super cadeaux. Alors prêt à tenter votre chance? Pour jouer, rendez-vous dans l'un des magasins participants. Plus d'infos sur la page Facebook, le 4. Jeu gratuit sans obligation d'achat. Règlement disponible chez Maître Citrita.
C'est le grand retour du Totem sur RRB. Un jeu que vous adorez et qui vous permet de découvrir un objet mystère. C'est le moment d'affûter vos petites cellules grises pour trouver le totem et pour décrocher la cagnotte. En jeu, des bons d'achat offerts par notre partenaire les marques calédoniennes et tricorillées. Le retour du Totem, c'est le 7 avril sur Radio Rythme Bleu.
Tout le sport en trois lettres, RRB.
Infomag, l'actualité sportive, on retrouve Jean-François Baudin.
Et je vous le disais, le sport ce midi, c'est une double actualité football. En métropole d'abord, le Paris Saint-Germain s'est qualifié pour la finale de la Coupe de France, Léo Fichou.
Pendant 45 minutes face à Dunkerque, les Parisiens ont tremblé. Les cinquièmes de Ligue 2 ont joué leur chance à fond et ça a très vite payé. Les Dunkerquois ont ouvert le score dès la 7e minute grâce à Sasso avant qu'Alsade ne double la mise à la 27e, 2-0 donc. Mais juste avant la pause, Dembélé a réduit l'écart 2-1. Au retour des vestiaires, Marquinhos à Paris a permis au PSG d'égaliser, puis Barcola à l'heure de jeu et Dembélé dans le temps additionnel ont scellé la victoire du PSG. Score final 4-2. La réaction du capitaine parisien Marquinhos qui s'attendait à un match difficile.
On voulait vraiment ne pas prendre des buts en début des matchs parce qu'on savait que ce début des matchs était très important. Ça nous a fait travailler des choses importantes pour cette fin de saison, que ça va être important. C'était une équipe de Dunkerque très courageuse. Ils ont réussi à être performants sur les détails des premiers mi-temps. Ils ont arrivé sur un coup franc et voilà, un ballon long dévié. Ils ont réussi les deux buts. Ils ont été très efficaces, qui nous a difficulté un peu ce début des matchs. Mais voilà, le résultat, on a en fin de match, on est très heureux parce qu'on a eu du courage, on a allé chercher, on a travaillé des choses qui s'étaient bien pour cette fin de saison.
Et Marquinhos et les joueurs du PSG qui seront donc opposés en finale soit au Stade de Reims, soit à Cannes, pensionnaire de Ligue 2, de National 2, pardon, le quatrième niveau en France. Les deux équipes qui s'affrontent demain matin à 6h, heure de Nouméa.
Et l'autre info au football, c'est dans la région avec la deuxième journée de Ligue des Champions d'Océanie et un club calédonien en lice.
Tigasport fera un grand pas vers les demi-finales en cas de victoire cet après-midi, mais face au Kagou se dresse l'ogre de cette O-League, Auckland City, les Néo-Zélandais, triple tenant du titre et qui n'ont plus perdu plus de matchs en Ligue des Champions depuis avril 2019. Alors pourquoi pas, hein, mais pour rappel, Tigaspor et Auckland City ont remporté leur premier match ce samedi. Victoire de Tiga sur les Fidjiens de Rewa FC 4-2. Victoire d'Auckland 1-0 sur l'AS Pirae. Cet après-midi, la rencontre est prévue à 15h. Elle sera à suivre en direct sur le site internet de la FIFA.
Il est 11h55, c'est la fin de ce journal. Infomag se poursuit avec Thierry jusqu'à 13h, qui sera l'heure du rappel des principaux titres d'actualité. Je vous souhaite une belle après-midi.